Vous avez sûrement déjà entendu parler du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Ce centre a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an et demi à Montréal. Et Radio-Canada nous apprenait récemment qu'il y aurait une antenne de ce centre-là qui pourrait être mise en place ici, à Québec, d'ici la fin de l'année 2017. Alors, pour en savoir plus sur ce projet-là, on a en ligne Herman de Paris Okomba, qui est directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, le CPRMV de Montréal. Bonjour!
Bonjour!
Bonjour! Est-ce que c'est vrai? Vous voulez, en effet, avoir une antenne à Québec d'ici la fin de l'année 2017?
Écoutez, ça fait partie du plan de déploiement du centre. Hein. Vous savez que le centre est financé à la fois par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, notamment le ministère de la Sécurité publique. Mm-hmm. Et dans notre plan de déploiement, nous devons servir l'ensemble de la province du Québec. Et on a annoncé déjà l'année dernière, on a l'intention évidemment d'avoir un pied à terre, comme on dit, que ce soit à mm-hmm. Québec ou à Gatineau. Pour la simple raison, c'est des régions où on a beaucoup d'appels, où on fait beaucoup de déplacements, donc pour diminuer nos coûts et pour mieux appréhender le phénomène, on a sous souhait d'être présent à Québec notamment.
D'accord. Donc, c'est vraiment une question pratico-pratique. Plutôt que de prendre des gens de Montréal, les envoyer en déplacement à Québec ou à Gatineau, en ayant un bureau sur place, ça permet de faire face à cette demande-là de façon plus concrète.
Ah, absolument, absolument. Je vous dirais qu'en fait, depuis le mois de novembre de l'année dernière, j'ai déjà deux employés qui travaillent à temps plein à Québec. Et depuis janvier, depuis l'attentat qu'on a connu en janvier, les demandes ne cessent pas de rentrer. Donc, d'où l'importance pour nous à la fois d'être présents pour s'occuper des enjeux qui se dégagent dans la région de Québec. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce souhait.
D'accord. Alors, vous savez, hein, le maire Labeaume, quand il a entendu parler de cette idée-là que vous aviez d'éventuellement ouvrir une antenne plus présente à Québec, il a été assez clair, pas du tout enthousiaste, et il dit à la ville de Québec, on est avec toutes les organisations, on travaille très bien, c'est pas la même situation qu'à Montréal, on n'a pas besoin de ça à Québec, et la ville ne mettra aucun sou. C'est ça qu'il dit, le maire Labeaume. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, écoutez, je pense que nous, on va poursuivre nos échanges avec l'équipe du maire. Je pense pas qu'il y a des divergences là-dessus. C'est juste de voir comment on peut l'opérationnaliser. Moi, ce qui est sûr et certain, je peux vous dire que les demandes ont bondi de 40% depuis le début de l'année. Il y a un besoin sur le terrain. Il y a un réel besoin en termes à la fois de formation, à la fois en termes d'intervention psychosociale qu'on fait déjà depuis belle lurette. Donc, on va continuer là-dessus. Je vous ai dit, hein, depuis le mois de novembre, il y a deux personnes qui travaillent au centre. Donc, je n'ai pas attendu tous ces débats pour répondre aux besoins des Québécois qui sont à Québec. On va aller de l'avant. Nous allons continuer à échanger avec l'équipe du M. Labeaume. Je ne pense pas qu'il y a des divergences.
Vous pensez pas qu'il y a des divergences? Ben, c'est parce que je vous répète ce qu'il a dit, le maire. Québec, on n'a pas besoin de ça et la ville ne mettra aucun sou. Ça ressemble beaucoup à une divergence quand même. Là.
Écoutez, vous savez, on est financé. Je vous dis que la ville, c'est sûr que nous, on veut travailler avec nos partenaires des municipalités. Et comme je vous dis, depuis le mois de novembre, j'ai deux employés qui travaillent à temps plein. Qui finance? C'est pas la ville. On travaille avec nos autres partenaires.
D'accord. Mais je pense que le gouvernement du Québec et la ville de Montréal.
Je suis convaincu que le maire va être sensible à cela. Vous savez, la preuve, j'ai donné des entrevues depuis ce matin. Il y a des citoyens du Québec qui appellent au centre. Il y a même une des citoyennes de Québec qui m'appelle pour me proposer des bureaux gratuitement. Alors, écoutez, si ce n'est pas un besoin ou pas, donc comment je parle de citoyens de la ville de Québec qui m'appellent et qui nous font des propositions. Il y a même qui me proposent même des bureaux à la banlieue de Québec. Donc, il y a un besoin. Et puis voilà, l'idée, c'est qu'on va discuter avec la ville, on va continuer à échanger. Il n'y a pas de divergence là-dessus.
D'accord. Bon, alors donc, vous avez l'air bien convaincu de votre affaire, mais je vous préviens, le maire Labeaume, là, quand il dit une fin de non-recevoir, c'est une fin de non-recevoir. Mais bonne chance dans vos discussions. Revenons à ce que fait le travail exactement du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. C'est quoi la différence entre les demandes que vous recevez à Montréal et les demandes que vous recevez qui émanent de Québec?
Écoutez, je vous dirais que le centre, d'abord, vous savez, on a un numéro 800 pour l'ensemble de la province. Donc, je vous ai dit au début, on a une compétence sur l'ensemble de la province. Alors, plus on quitte la grande région de Montréal, plus on a des appels qui touchent la question de l'extrême droite. Ça, c'est un fait. Le mois de novembre dernier, j'ai rendu public des chiffres où, justement, j'alertais l'opinion en disant, mais écoutez, on est inquiet par rapport à la montée de l'extrême droite dans d'autres régions. Alors, si on regarde bien la région de Québec, les appels qu'on reçoit, c'est vraiment des appels plus en lien avec l'extrême droite.
Qu'est-ce que vous appelez l'extrême droite? C'est quoi votre définition de l'extrême droite?
L'extrême droite, c'est des appels, par exemple, liés à tout ce que vous voyez comme la meute. Ça, les gens nous appellent là-dessus. Les gens qui nous appellent pour des questions d'idéologie. Vous avez des parents qui nous appellent en disant, écoutez, mon fils a par exemple, une passion pour les armes. Mon fils a un discours polarisant sur telle communauté, tel enjeu. Donc, mon fils, son engagement en matière identitaire m'inquiète, etc. On a tout ce qui est un discours, évidemment, de rejet, de polarisation qui est lié au courant idéologique de droite. Alors, donc, ça, c'est un fait, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Et là, depuis les deux derniers jours, les citoyens de Québec nous appellent pour nous signaler, par exemple, que le groupe La Meute distribue des tracts dans nos écoles, continue à faire du recrutement, veut organiser des manifestations. Donc, ça, c'est le concret qu'on reçoit de Québec.
Ouais. Et La Meute, pour vous, c'est un groupe dangereux, c'est un groupe d'extrême droite dangereux? Selon vos critères, les critères du centre de radicalisation?
Absolument aucun doute. Pour moi, la Meute, c'est un groupe d'extrême droite, comme les autres groupes qui sont actifs, les sergents de John, etc. Bref, oui, la Meute, c'est un groupe d'extrême droite. Il suffit juste de voir le discours dont ils véhiculent. Il suffit de rentrer dans leur site Internet. Vous savez, ils ont un discours public, ils ont un discours officieux. Et nous, quand on regarde les discours officieux, quand on regarde ce qu'ils échangent dans les plateformes avec certains de leurs membres qui sont sortis ou qui sont à l'intérieur, moi, j'ai aucun doute que la Meute, c'est un groupe d'extrême droite, ça je l'ai toujours dit.
D'accord, mais quand par exemple, je suis pas là pour prendre leur défense d'aucune façon là, mais quand les gens par exemple de la Meute disent que ce qu'ils craignent c'est pas l'islam mais c'est l'islamisme et justement la radicalisation islamiste, est-ce que vous considérez encore que les gens de la Meute sont des gens d'extrême droite?
Écoutez, moi, quand je regarde les gens de la Meute qui appellent à utiliser les armes contre tous ceux qui n'ont pas l'identité catholique québécoise de souche,
je vois pas. Les gens de la Meute disent ça, de prendre les armes contre les non-catholiques?
Mais écoutez, quand tous ceux qui ne sont pas catholiques, tous ceux qui sont étrangers, la communauté arabo-musulmane, allez dans leur site, vous allez voir. C'est des gens qui encouragent ce débat-là. Regardez, récemment, il y a eu un reportage sur le contenu du site internet de monsieur, du Facebook de monsieur Gauthier Rambeau. Vous allez voir, il y a plein de personnes qui sont là-dedans. Nous, on a vu, qui sont identifiés étant partisans de la Meute. Il y a un qui a été arrêté récemment. Donc, bref, c'est l'idée.
Donc, ça vous inquiète.
Il faut faire la différence. D'accord. Entre qu'est-ce qui est de la liberté d'expression et qu'est-ce qui est de l'appel à la haine, qu'est-ce qui est l'appel à la violence, tel que défini par l'article 318 du Code criminel. Pour moi, c'est clair, la Meute, je n'ai aucun doute, c'est des gens qui appellent à la violence et c'est inapproprié.
D'accord. Alors, donc, ça, c'est dans la région de Québec, versus les gens de demande que vous recevez dans la région de Montréal. À ce moment-là, c'est des gens qui s'inquiètent de la radicalisation des gens dans leur entourage. Et c'est quel type de radicalisation? Alors, c'est de l'islamisme ou c'est des groupes antisémites ou c'est quoi?
Écoutez, là, vous parlez de la grande région de Montréal?
Oui.
Ah oui, écoutez, on trouve de tout, hein, vous savez.
Okay. Donnez-nous des exemples, d'exemples d'appels que vous recevez au centre.
Mais on reçoit parfois, je reçois parfois des appels, un parent qui appelle, écoutez, mon fils devient terroriste. On demande pourquoi. Il me dit non, écoutez, mon fils s'est converti à l'islam. Et là, on a un rôle de pédagogie. Donc ça c'est parfois les parents nous appellent ou les enseignants pour avoir qu'on les rassure, pour avoir de l'information.
D'accord. Vous avez parfois des appels. Ça, c'est de la naïveté.
Oui.
Mais par exemple, si quelqu'un va sur les sites du groupe armé État islamique, ça, oui, c'est inquiétant. Puis c'est une inquiétude qui est légitime.
Absolument, absolument.
D'accord. Il faut distinguer les deux.
On regarde tout, oui.
Et ça, vous en remarquez une augmentation ou c'est assez stable du côté de la radicalisation?
Je vous dirais que depuis les événements qu'on a connus à Québec, les signalements liés aux fréquentations des sites qui prennent la violence ont augmenté définitivement. Donc, on en a beaucoup. Effectivement, les parents qui nous appellent, qui observent que leurs jeunes fréquentent des sites inappropriés, qui appellent à la violence, à la haine. Oui, ça augmente. Et on a d'ailleurs, je vous dirais, depuis le début de l'année, je dirais peut-être au moins une dizaine des cas, des sites qu'on a dû informé les autorités policières parce qu'on était inquiets.
Ah oui?
Il y avait un appel, oui, un appel à la haine, à la violence.
Et quelle a été la réaction des autorités, justement?
Les autorités ont intervenu là-dessus. Il y a deux cas que vous avez vu dans les médias qui ont des personnes qui ont été arrêtées. Mm-hmm. Donc, on ne tolère plus ça. Les gens ne doivent pas se cacher derrière l'anonymat d'Internet pour véhiculer des messages de haine, de division. Au Québec, on ne tolère pas la haine. Au Québec, la violence n'est pas une option. Le Québec, on est une société, on est ouvert au monde et on tient à cette particularité quand même.
D'accord. Quand vous regardez ce qui est arrivé justement, l'attentat de la mosquée, d'ailleurs Alexandre Bissonnette, donc sa cause se retrouvait devant les tribunaux ce matin, il s'est pas présenté lui-même, là il va revenir en cours, Catherine, je pense que c'est le 8 septembre, c'est bien ça?
Exactement, le 8 septembre.
Oui. Alors, quand vous regardez le profil, par exemple, de quelqu'un comme Alexandre Bissonnette, est-ce que c'est quelqu'un qui, selon vous, selon vos critères, au Centre de prévention de la radicalisation, est-ce que c'est quelqu'un dont les proches auraient dû pouvoir voir différents signes avant-coureurs qui auraient pu laisser croire qu'il allait commettre le geste, ou est-ce que c'est des fois des gens vraiment totalement isolés, puis c'était impossible de prévoir qu'il allait faire quelque chose comme ça?
Écoutez, on va pas refaire l'histoire, hein. Et c'est sûr que ce qui est arrivé, mais je peux vous dire, ça arrive dans toute forme de radicalisation, hein. C'est toujours après qu'on fait des liens. Et nous avons rendu public, par exemple, un baromètre de comportement qui identifie les comportements. Oui, ça fait depuis 2-3 ans que ce baromètre est là où on peut regarder les comportements. Quand je regarde, par exemple, le cas de Bissonnette, on peut voir dans ce baromètre qu'il y avait des comportements identifiés, par exemple, une passion pour les armes, un engagement marqué pour le discours de droite, etc.
Oui, mais attendez deux secondes. Attendez deux secondes. C'est exactement là que je voulais qu'on parle.
Ah, vous m'améliez? Oui.
Non, c'est parce que je pose la question, mais après, c'est vous qui répondez.
Ouais.
Mais si on... Parce que là, vous dites, dans votre baromètre, l'amour des armes. Bon, il peut y avoir plein de gens qui ont un amour des armes, ça ne veut pas dire nécessairement. Donc, c'est la combinaison de différents éléments. Donc,
absolument.
Un amour des armes, et là, la deuxième critère auquel vous faites référence... C'est des liens ou une familiarité avec des sites de droite. Donc, vous faites référence à quoi? Marine Le Pen et...
Il y a plein. C'est-à-dire que nous, le baromètre de comportement, c'est une combinaison de comportements qui permet évidemment d'observer, d'allumer la lumière rouge. Finalement, qu'il y a un problème, il faut regarder.
Revenons à Bissonnette. Est-ce que le fait que sur sa page Facebook, il aime Marine Le Pen, c'est un signe de radicalisation? Parce qu'à ce moment-là, je vous répondrais qu'il aimait aussi les Doritos puis le 7-Up. Puis c'est pas un signe de radicalisation d'aimer la page Facebook de Doritos puis de 7-Up.
Alors, écoutez, quand vous aimez la page book, quand vous appréciez, vous likez les discours de Marine Le Pen, ajoutez avec d'autres comportements, d'autres éléments, analysez dans un contexte, ça vous donne un diagnostic. Alors, le baromètre de comportement, comme je vous dis, qu'on a développé, c'est un outil de prévention, de bienveillance, de vigilance. Alors, c'est les parents qui nous appellent, là. Moi, j'ai des parents qui nous appellent parce qu'ils ont un comportement non significatif, mais qui veulent se faire rassurer. Dans le cas de Bissonnette, par exemple, comme je vous dis, est-ce qu'on aurait pu éviter cela? On va pas refaire l'histoire. Mais il y a eu des comportements. Si des parents, des proches, des amis avaient appelé en amont très tôt, on aurait pu peut-être faire quelque chose, établir un diagnostic, faire une intervention. Mais c'est toujours après. Vous savez, moi, quand je au centre, on prend des jeunes radicalisés, politico-religieuses. Et moi, j'ai un parent qui me disait récemment, il disait, écoutez, je me suis rendu compte que ma fille se radicalisait. Cet enfant ne me faisait plus des becs comme il faisait avant. Avant, il me prenait une minute pour me faire un bec. Et dès qu'il a commencé à se radicaliser, c'était 30 secondes. Et le papa, il dit, mais voilà, là, je sentais que ça commençait à changer. Donc, c'est des comportements qui sortent pas de l'ordinaire, du coup, de la vie, du quotidien, mais qui nous disent qu'écoute, il y a un changement de comportement. Dans le cas de Bissonnette, il y a des comportements, des choses, les proches l'ont dit, mais c'est après qu'on se rend compte, finalement.
Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi de l'inverse, c'est-à-dire que vous me donnez différents critères pour dire bon ben notre enfant ou un proche, quelqu'un qu'on connaît, est en train de se radicaliser. Est-ce qu'il n'y a pas le danger justement de tirer la sonnette d'alarme pour quelque chose qui est tout à fait inoffensif? Je veux dire, c'est tout à fait possible que notre enfant il arrête de nous donner des bisous parce qu'il tente plus de nous donner des bisous. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre une arme puis qu'il va aller tuer quelqu'un dans un lieu public là.
Je vous dis, le baromètre en question, c'est un outil de prévention. On est dans une vigilance bienveillance. Okay? L'idée, ce n'est pas un bisou mis hors contexte. Le bisou s'analyse dans un contexte. Il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs à analyser. À la fin, ce n'est pas d'avoir une approche répressive. À la fin, c'est d'avoir une stratégie d'aide, de compréhension, de donner du soutien à la personne. On n'est pas dans une détection. Vous savez, en matière de radicalisation, en matière d'extrémisme violent, en matière de terrorisme, il n'y a pas de checklist, il n'y a pas de comportement préétabli. D'où l'importance de s'arrimer, d'observer les comportements qui sortent de l'ordinaire de vie. À partir de là, on peut prendre des mesures de prévention, des mesures d'aide. Ce n'est pas des mesures de judiciarisation, on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas de checklist, il n'y a pas de profil.
Oui, parce que sinon, ce serait facile, on aurait juste à dire, ben regarde, tu as tel comportement, paf, on débarque chez toi, puis on t'arrête, puis à ce moment-là, on n'aurait pas justement des attentats comme il y a eu à Manchester ou des attentats comme il y a eu à la mosquée.
Vous savez, on a des parents parfois qui nous appellent juste pour des questions aussi banales que mon fils, je l'ai surpris en train de lire un site qui prend la violence. Et dans l'analyse, aussi banale que ça, on rassure le parent, et dans l'analyse, la discussion, se rend compte que le fils est rendu très loin dans le processus. Donc, l'idée, c'est d'encourager les parents, les proches, les professeurs, tout le monde, c'est de, si vous observez des comportements qui sortent de l'extraordinaire, appelez pour avoir de l'aide, appelez pour qu'on puisse vous rassurer. Ce n'est pas de la judiciarisation. Si on agit en amont...
Ce qui m'inquiète, M. Herman, c'est que c'est la notion d'un petit peu de chasse aux sorcières. Parce que je reviens encore une fois à Alexandre Bissonnette, le fait que quelqu'un aime la page Facebook de Marine Le Pen. Il y a plein de choses dans le programme de Marine Le Pen, le fait qu'elle voulait sortir la France de l'Union européenne. Ça veut pas dire nécessairement que cette personne-là va prendre une arme et aller tuer 6 personnes dans une mosquée. Là, c'est qu'il y a des liens parfois un peu simplistes qu'on fait après coup, parce qu'Alexandre Bissonnette, il aimait aussi le pape puis plein d'autres monde sur sa page Facebook. Mais la seule chose qu'on a retenue, c'est qu'il aimait la page Facebook de Marine Le Pen. Mais il aimait aussi plein de membres du Parti québécois. Ça veut pas dire que le Parti québécois, ça encourage les gens à prendre les armes. Là, c'est raccourci-là qui me dérange un peu.
Mais je peux vous dire, je peux vous garantir qu'au centre, on ne fait pas ce raccourci. Au centre, on condamne d'ailleurs ce type de raccourci.
Parfait.
Au centre, nous
vous
avons des grilles de validation qui sont très bien élaborées. Sinon, écoutez, tous les appels qu'on reçoit au centre, c'est tous des terroristes. Voyons, on ne va pas être là, on va pas aller jusque-là.
Il y a une analyse. D'accord, parfait. Ben, vous me rassurez.
Voilà.
Mais oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Herman Desparis au combat. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille?
C'est très impressionnant, c'est très bien prononcé.
Ben non, mais il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Je l'ai lu comme ça se prononce, mais je l'ai lu comme c'est écrit. Mais je me disais peut-être que ça aurait été une autre prononciation, mais c'est bien comme ça. Ben merci beaucoup.
Bonjour.
Merci, au revoir. Donc, Herman Desparis-Okomba, qui est directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui existe déjà à Montréal, donc qui va éventuellement avoir une antenne plus importante à Québec et peut-être même à Gatineau. Mais comme il nous le disait, il y a déjà 2 employés qui travaillent à temps plein pour la région de Québec. Donc, vous pouvez les contacter si vous soupçonnez ou si vous avez des questions concernant des gens dans votre entourage qui sont en train de développer des comportements qui vous paraissent étranges.
Donc, puis une augmentation aussi du nombre d'appels depuis le mois de janvier avec l'attentat à la mosquée ici.
Tout à fait.
C'est tout le temps qu'on arrive, ma chère Sophie.
Ben oui, c'est déjà fini.
Ça va vite, on reprend ça demain.
Mais c'est quoi? Demain, c'est ça la beauté
d'une
quotidienne.
Avec Despacito, puis des imitations de Régis ou...
Ah mon Dieu, les imitations de Régis. Ben c'est sortir les violons.
Ouais.
C'est j'ai été blessée profondément, là.
Mais le
c'est ton orgueil qui a été blessé. J'étais blessée parce que le monde, moi je le voulais, le SRB, mais le monde il m'a dit non, pas de SRB, pis là, moi j'ai de la peine. J'avais pas voulu de mon SRB d'abord, moi j'ai boudé dans mon coin. Des pas fins.
Ah, t'es drôle, Sophie.
T'es blessée.
On remet ça
demain. Oui, mais c'est mon petit côté comique. Tu sais que Gilbert Rozon m'a déjà dit qu'il fallait que je garde mon emploi, là, qu'il fallait absolument pas que je m'en aille en humour, parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour.
Ben, tant mieux, parce qu'on est bien content que tu restes avec nous autres. Ça fait notre affaire que tu sois pas humoriste. Les humoristes à la radio, c'est du côté de Montréal, ça.
Il y en a bien assez. Ah oui, c'est vrai, bien répondu. Hey, merci beaucoup, les auditeurs et auditrices, d'avoir été là. On se retrouve demain matin, 9h30, en compagnie de la belle et intelligente et talentueuse Catherine Bachand.
Miroir,
et le non moins talentueux Hugo Veilleux, qui nous a assuré la recherche et la mise en onde aujourd'hui, et les violons. À demain.
À demain.